donc en introduction, si vous voulez, dans la façon dont nous nous comportons vis-à-vis de Dieu dans la vie de tous les jours, on voit qu'il existe plusieurs conceptions de Dieu. Donc en parlant ici de conception, je ne veux pas dire de conception intellectuelle, mais pratique. C'est-à-dire que dans notre façon de prier, dans notre façon de recourir à Dieu, dans notre façon aussi même de voir Dieu dans la vie de tous les jours, on peut dire que notre façon de voir n'est pas tout à fait juste. Donc, pour résumer, je dirais qu'il y aurait trois conceptions de Dieu qui me paraissent en partie erronées et qui peuvent en partie nous toucher. Donc, pour certains, on voit que Dieu paraît comme étant un être inaccessible d'abord. Donc, Dieu paraît lointain, un être qui est perdu dans les nuées, qui paraît complètement étranger à nos préoccupations, à nos soucis, à nos joies, à nos peines. Donc, c'est la conception d'un Dieu qui est complètement coupé du monde, donc une espèce un peu de Dieu éthéré, ou en tout cas de Dieu transcendant. Ensuite, donc Dieu inaccessible, si bien qu'on ne recourt pas à lui, puisqu'il semble être dans son monde et moi dans le mien. Ensuite, une autre conception de Dieu, là encore pas forcément théorique mais pratique, c'est la conception d'un Dieu vengeur. C'est-à-dire que pour certaines personnes, on a l'impression que le bon Dieu est essentiellement le père fouettard, qui est toujours derrière notre dos, toujours prêt à nous punir. Donc là, c'est la conception d'un Dieu de crainte. Et puis, une troisième conception de Dieu qui existe aussi aujourd'hui, c'est la conception d'un Dieu à la dimension de l'homme. Donc Dieu serait, pour certains, comme étant presque le copain. Donc le bon Dieu, il est près de nous, prêt à satisfaire à toutes nos demandes. En tout cas, donc, c'est un Dieu humaniste et un Dieu qui serait au service de l'homme. Et ensuite, si vous réfléchissez bien à ces trois façons d'envisager Dieu, que dans ces trois conceptions de Dieu, il y a quelque chose de vrai. Dieu est bien transcendant, c'est sûr qu'il est bien au-delà de nos petites catégories humaines, c'est sûr. D'une certaine manière, c'est vrai que le bon Dieu est loin de nous. Ensuite, Dieu est aussi juge de nos actions, et donc il doit susciter en nous une certaine crainte. On doit avoir une crainte même certaine de Dieu, dans le sens où le bon Dieu nous a créés pour faire le bien, mais si on ne fait pas le bien, eh bien on devra en subir les conséquences. Et puis c'est vrai aussi d'une autre manière, que, sans être certes le copain, que le bon Dieu est proche de nous. Et il est même plus près de nous qu'on pourrait l'imaginer. Il est en nous, je l'espère, par sa grâce. Et il est vraiment, donc, il est vraiment beaucoup plus proche de nous qu'on pourrait aussi le penser. Mais l'erreur, justement, vient que dans ces trois approches de Dieu, on ne voit qu'un aspect. Et pour essayer d'arriver à une vision juste de Dieu, il faudrait être capable d'unir ces trois aspects en un. Voir en même temps un Dieu inaccessible, non pas ensuite un Dieu vengeur, mais un Dieu qui, par sa grandeur, suscite une certaine crainte révérentielle, et puis en même temps un Dieu qui est infiniment proche de nous. Et c'est d'ailleurs ça qui est admirable, qu'un Dieu si grand soit en même temps si proche. C'est toute la beauté de la religion, de savoir que le bon Dieu qui est si grand, qui est si saint, qui est si parfait, qui est si rempli de perfection, soit en même temps se soit mis à notre portée en prenant une nature humaine comme la nôtre et en restant au milieu de nous aujourd'hui par la Sainte Eucharistie et en étant dans notre cœur par sa grâce. Et alors le but de cette retraite, c'est justement d'essayer d'arriver à découvrir un peu plus profondément qui est Dieu et de considérer quel regard il porte sur nous parce que le bon Dieu nous voit et nous regarde même et voir ensuite ce qu'il attend de nous. Alors le terme qui évoque le mieux certainement la nature de Dieu et qui va permettre de comprendre ce qu'il attend de nous, c'est le terme d'amour, ou mieux en français, parce que le terme d'amour est un terme qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui, et donc c'est un terme qui est souvent même galvaudé, c'est le terme de charité. Ce que dit saint Jean, Deus caritas est, Dieu est charité. Donc Dieu est essentiellement amour, Dieu est essentiellement charité. C'est le terme qui définit le mieux Dieu. Et même quand il punit l'homme, c'est encore par amour. C'est dans le but de le ramener dans le droit chemin. Et cette approche de Dieu est capitale. Elle est capitale parce que, d'un point de vue purement humain, on le voit bien, on a le besoin d'aimer. On a aussi le besoin d'être aimé. Et donc, si notre cœur ne se fixe pas en Dieu, il se fixera nécessairement dans une créature. Donc, il y a le risque toujours de chercher dans une créature ce que Dieu seul peut nous donner. Dieu seul peut combler notre appétit de bonheur. Parce que cet appétit de bonheur qui est en nous est en quelque sorte infini, et par conséquent ne peut être comblé que par le bien infini. Et si maintenant on ouvre la Sainte Écriture, et en commençant par l'ordre chronologique, donc par l'Ancien Testament, et qu'on lit l'Ancien Testament d'une façon superficielle, on aura justement l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament est essentiellement un Dieu vengeur du mal. Un Dieu qui, par conséquent, va susciter en l'homme la crainte plus que l'amour. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on découvre la justice immanente de Dieu après les péchés des hommes. Le déluge, qu'on méditera demain matin, qui a anéanti tous les hommes à l'exception de la famille Noé, ça donne à réfléchir. Ou la ville de Sodome et Gomorre, qui a été aussi brûlée en raison des péchés des hommes, c'est encore aussi un acte de la justice immanente de Dieu, qui est propre à susciter la crainte. Ou encore le châtiment de certains idolâtres aussi, dans le désert, au temps de Moïse, c'est la même chose. Ou même lorsque Dieu donne sa loi à Moïse au sommet du mont Sinaï, quand on compare cette loi ancienne et puis la loi nouvelle où c'est le bon Dieu, où c'est notre Seigneur qui donne les béatitudes, donc au mont des béatitudes, dans une verte prairie, c'est sûr qu'il y a un contraste frappant entre ces deux approches de Dieu. Au sommet du mont Sinaï, c'est au milieu des éclairs, du tonnerre, donc dans une théophanie qui est assez impressionnante. Et au contraire, dans le monde des béatitudes, c'est de la douceur, c'est un autre aspect. Mais si on regarde les choses plus en profondeur, comme on va essayer de le faire au cours de cette retraite, eh bien on va constater que l'amour de Dieu est déjà bien présent dans l'Ancien Testament. L'amour de Dieu pour l'homme est bien présent dans l'Ancien Testament. Et donc le thème spécialement des quelques instructions que je ferai moi-même pour donner une note un peu particulière à cette retraite, en dehors de toutes les considérations générales que vous avez sur la vie chrétienne, personnellement, je développerai un aspect de la vie chrétienne, ce qui est l'aspect de l'alliance, alliance de Dieu avec l'homme. Donc on va voir que Dieu, petit à petit, dans sa pédagogie, a préparé les hommes à contracter avec lui une alliance. Et cette alliance va déjà apparaître justement avec Moïse dans l'Ancien Testament. Dieu va contracter avec Moïse une alliance et avec son peuple. Et ce sera déjà une alliance d'amour. Une alliance qui va provenir de l'amour et une alliance qui aura pour but d'entretenir l'amour entre Dieu et les hommes. Alors si déjà dans l'Ancien Testament, donc Dieu se manifestait sous cet aspect d'amour, cela est encore beaucoup plus vrai, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Saint Jean, chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde au point de donner son Fils unique, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. » Donc c'est tout le plan de Dieu qui est résumé là. La folie de l'amour de Dieu. Dieu le Père qui a tant aimé le monde qu'il n'a pas hésité à donner son propre Fils, son Fils unique, son Fils bien-aimé. Et pourquoi a-t-il donné son Fils unique au monde ? Eh bien, pour que nous croyions en lui, pour que nous ayons la foi. Et par la foi, une foi agissante par la charité, nous ayons la vie éternelle. Donc la première alliance de Dieu avec l'homme n'était qu'une image, qu'une figure d'une alliance encore beaucoup plus belle, encore beaucoup plus profonde, l'alliance de Dieu avec son Église. Tous les éléments, vous voyez, de l'Ancien Testament, on ne doit pas séparer les deux testaments d'un côté, sont bien complémentaires l'un de l'autre, et l'un se comprend par l'autre. Et donc, il est nécessaire, si on veut bien comprendre le Nouveau Testament, d'ouvrir l'Ancien. Parce que dans l'Ancien Testament, on va retrouver des figures donc, qui vont annoncer ce que sera le Nouveau Testament. Donc, il ne faut pas opposer les deux testaments. Les deux sont complémentaires l'un de l'autre. Et l'un donc va aider à mieux comprendre l'autre. Alors cette alliance de Dieu avec son Église, elle sera réalisée le soir du Jeudi Saint et le Vendredi Saint. Ce sera donc à nouveau une alliance d'amour. Donc au cours de cette retraite, on va voir, on a déjà commencé à parler d'ailleurs de cet aspect, que Dieu est essentiellement un Dieu d'amour. Mais ici, déjà, je vais préciser, il ne faut pas se tromper sur la nature de l'amour de Dieu pour nous. Donc Dieu nous aime dans la mesure où nous avons été créés à son image et dans la mesure où il est présent en nous par sa grâce. Mais il n'aime pas en nous nos caprices, il n'aime pas nos mauvais désirs, il n'aime pas nos mauvais penchants, il n'aime pas nos mauvaises tendances. Donc il aime en nous tout ce qui est aimable, mais il n'aime pas nos défauts, il n'aime pas nos désordres. Donc Dieu nous aime dans la mesure où nous sommes ses enfants, mais il n'aime pas en nous ce qui s'oppose à notre vrai bonheur. Et par conséquent, pour nous permettre de tuer en nous le vieil homme, eh bien, il va nous justement nous inviter à mener le bon combat contre tout ce qu'il y a de désordonné en nous. Et c'est logique, c'est normal. Donc, en nous, il y a comme deux hommes. Il y a l'homme nouveau et le vieil homme. Et le vieil homme, lui, n'est pas aimable. Et donc, le bon Dieu va justement utiliser différents moyens pour nous aider à tuer ce vieil homme. Donc, il y aura des moyens extérieurs, puis des moyens intérieurs. Et par ailleurs, aussi, autre chose très importante, c'est que Dieu nous aime, mais il nous aime en Dieu et non en homme. Donc, il faut éviter ici, vous voyez, d'avoir un regard trop humain de Dieu. C'est vrai, d'une certaine manière, du monde du fait homme, tout à fait, c'est tout à fait vrai. Notre Seigneur Jésus-Christ est réellement homme, c'est tout à fait vrai. Il nous aime dans sa nature humaine, tout à fait, mais il reste Dieu. Et donc, il a, en tant que Dieu, il a une vision qui est beaucoup plus haute que la nôtre. Et donc, nous qui avons un regard qui est beaucoup trop fixé sur les réalités d'ici-bas, un regard qui est incomplet, on ne comprend pas toujours la façon dont le bon Dieu s'y prend avec nous ou ce qu'il attend de nous, parce qu'on voit les choses d'une façon trop humaine. Donc Dieu nous voit en Dieu, nous regarde en Dieu et nous aime en Dieu. Et spécialement, ce qui pourra nous donner un éclairage de l'amour de Dieu pour nous, ou d'essayer de mieux comprendre la conduite de Dieu vis-à-vis de nous, c'est toujours nous rappeler que nous sommes des êtres d'éternité. Donc nous avons quelques années à passer sur la terre, et puis ensuite il y a une éternité, heureuse ou malheureuse, qui nous attend de notre côté. Et donc, pour être capable de mieux comprendre l'attitude de bon Dieu vis-à-vis de nous, il faut toujours se rappeler qu'on est des êtres d'éternité. Donc ne pas regarder les choses uniquement sous l'angle temporel de ces quelques années, qui passent très vite, que l'on passe ici-bas. Il faut voir les choses sous l'angle de l'éternité. Et c'est vrai que quand on sera passé de l'autre côté, il y aura beaucoup de choses qu'on comprendra mieux, c'est clair. Donc nous, on a trop tendance à voir les choses sous l'angle du bonheur immédiat, sous l'angle uniquement à la lumière de la vie présente, avec notre petit regard en plus qui est limité. Et comme le bon Dieu veut qu'on acquiert une couronne, et une couronne qui est belle, pour l'éternité, eh bien, il suscite des occasions d'embellir cette couronne. Et les occasions sont parfois des épreuves. Alors, je vous ai dit que Dieu est amour, ce qui est vrai, que la façon dont le bon Dieu nous aime est une façon qui est divine, et non pas uniquement humaine. Et puis, bien sûr, on dit, si Dieu est amour, alors d'où vient le mal ? Tout de suite, c'est la question qu'on se pose. C'est ce que les incroyants disent toujours. Vous dites que le bon Dieu est bon, mais alors s'il est bon, alors pourquoi tant de mal? Eh bien, on sait très bien, le mal ne vient pas de Dieu. Et s'il y a du mal aujourd'hui dans le monde, ça vient en premier lieu du péché de nos premiers parents. C'est le péché qui a fait entrer le mal dans le monde. S'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas eu de mal. Lorsque nos premiers parents se sont fait avoir par le serpent en mangeant du fruit défendu, ils ont ouvert la porte au mal du péché tout d'abord, et puis ensuite au mal de la souffrance et de la mort, comme conséquence du péché. Donc ici, c'est très important toujours pour nous de le comprendre. La souffrance et la mort sont le salaire du péché. Dieu avait parlé clairement à Adam et Ève. Il leur avait dit, le jour où vous mangerez du fruit défendu, vous mourrez. Donc il y a bien un ordre, une sanction, une menace. Et donc la menace avant et la sanction après, à mesure où ils n'ont pas obéi. Et saint Paul le rappelle aux Hébreux, il dit, c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Romains chapitre 5, verset 12. Mais comme le bon Dieu sait tirer le bien du mal, eh bien il nous permet de donner à nos souffrances et à notre mort une nouvelle signification. Le bon Dieu est capable de te faire tirer le bien du mal. Donc la souffrance et la mort qui en soi sont des mots et restent des mots terribles, la souffrance est quelque chose de terrible, la mort aussi, peuvent aujourd'hui devenir pour nous source de salut et de sainteté. Et donc, comme on verra au cours de cette retraite, la souffrance et la mort peuvent porter soit uniquement la marque du péché, mais peuvent aussi être marquées du sceau de la vertu et de la sainteté, suivant comment on réagit face à la souffrance et comment on réagira un jour face à la mort. Et maintenant, ces réflexions sur le mal que nous voyons aujourd'hui autour de nous, mal du péché, mal de la souffrance, mal de la mort, nous font remonter donc au péché originel, mais aussi à Satan, qui en a été l'inspirateur. L'histoire de l'humanité ne peut pas s'expliquer sans le péché originel, mais le péché originel lui-même ne peut s'expliquer sans l'intervention de Satan. Et aujourd'hui, le démon reste plus que jamais présent dans le monde, c'est clair. Le démon, il a qu'un but, c'est de faire tomber le plus d'âmes possible en enfer. D'où la nécessité pour nous du combat spirituel. Donc d'un côté, il y a le vieil homme qui est en nous, qui nous attire vers le bas, et puis de l'autre, il y a en plus Satan qui nous inspire des pensées mauvaises et qui nous incite à tomber dans des pièges parfois grossiers, mais malheureusement, comme on est un peu lourd, eh bien, on se fait avoir. Donc au cours de cette retraite, on va vous parler à la fois de l'amour du bon Dieu, du péché, de la souffrance, de la mort, du démon, de la nécessité du combat spirituel pour arriver à notre Seigneur. Et puis ensuite aussi à la grâce de la résurrection. Alors maintenant, après ce préambule, essayons de considérer l'homme au lendemain de sa chute. Donc Dieu a créé l'homme dans un état de perfection. Adam et Ève au ciel étaient enrichis de dons merveilleux. On ne connaissait ni la souffrance ni la mort. Mais après le péché originel, eh bien, comme le bon Dieu l'avait annoncé, l'homme a dû quitter le paradis terrestre et travailler à la sueur de son front. Tu travailleras à la sueur de ton front. Et à la femme, on lui a dit eh bien, qu'elle enfanterait dans la douleur. Tu enfanteras dans la douleur. Et quand on dit tu enfanteras dans la douleur, ce n'est pas uniquement la souffrance de l'accouchement, parce qu'aujourd'hui il existe d'ailleurs l'enfantement sans douleur, mais c'est tout ce qui regarde le cycle de vie qui est présent en toute femme et qui est pour elle source de joie, mais aussi source de souffrance. Et puis c'est aussi la maternité, c'est ensuite après toute l'éducation des enfants qui aussi est inclue déjà dans cette phrase « tu enfanteras dans la douleur ». Les enfants qui sont la joie des parents, la joie d'une maman, mais ce qui est aussi l'occasion et parfois la source de souffrance, comme vous en êtes vous-même le témoin. Donc le « tu enfanteras dans la douleur », ça renferme tout cela. Et puis après, il y a une autre partie de la phrase aussi qui importe de signaler. « Ton désir te portera vers ton mari, mais c'est lui qui dominera sur toi. » Je vous laisse méditer sur le poids de cette pénitence. Donc c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le péché originel, il y aurait toujours eu un chef de famille. Mais seulement l'obéissance aurait été facile. Mais Et aujourd'hui, c'est pas toujours aussi évident. C'est une conséquence du péché originel. C'est très intéressant de connaître donc ces paroles de Sainte Écriture. C'est juste le moment où l'homme va quitter donc quitte le paradis. Donc c'est la sanction qui touche l'homme et celle qui touche la femme. Et celle qui touche l'homme, tu travailleras sur ton front. Donc c'est tout ce qui concerne le travail pour l'homme, les soucis aussi qui sont inhérents à sa nature masculine. Mais le bon Dieu ne se contente pas d'annoncer le châtiment encouru par la faute. Il annonce aussi un combat gigantesque entre le bien et le mal, et spécialement entre la femme et le démon. Je mettrai une inimitié entre toi, Satan, toi le serpent, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle te frappera la tête et tu la mordras au talon. Donc on voit ici un combat qui apparaît dès le moment où l'homme quitte le paradis terrestre, un combat entre le bien et le mal, et spécialement entre la, avec le rôle de la femme dans ce combat, la femme qui doit écraser de son pied la tête du serpent. Et ensuite, si vous regardez d'ailleurs le dernier livre de la Sainte Écriture, le livre de l'Apocalypse, eh bien on va retrouver la femme et le dragon. Donc de nouveau, ce combat donc, qui enserre toute la Bible, donc, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, on voit ce combat entre la femme et Satan. Et donc ça montre bien pour vous la nécessité de choisir entre Ève ou la nouvelle Ève. On peut très bien, la femme peut très bien se mettre du côté du serpent. Hein. Et elle peut au contraire eh bien, se mettre du côté de la Sainte Vierge, qui est le modèle de la femme, qui est la femme par excellence. Et puis alors à la fin, bien sûr, on sait très bien, le cœur immaculé triomphera, donc on sait très bien qu'il y aura le triomphe, mais entre les deux, il y a un combat. Et on voit la place de la femme dans ce combat. Donc ce tableau d'Adam et Ève qui quittent le paradis terrestre avec ce combat entre la femme et le démon nous montre comment finalement l'humanité va très vite se partager en deux camps. Il va y avoir deux lignées, celle des suppôts de Satan et celle des enfants de Marie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc après il y a toute la lignée du bien et celle du mal. Et c'est ce qui va apparaître donc dès le début donc de l'histoire de l'humanité après la chute. Adam et Ève ont deux enfants. L'aîné s'appelle Caïn, il est laboureur. Et son jeune frère, qui a un an de moins que lui, s'appelle Abel. Donc Caïn est cultivateur, tandis qu'Abel, lui, est berger. Abel garde les moutons. Or, il arriva, est-il dit dans la Genèse, longtemps après que Caïn offrit au Seigneur des fruits de la terre en sacrifice. Abel aussi offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc ici, c'est intéressant, on voit que l'homme, très vite, a pris conscience de la nécessité d'offrir à Dieu des sacrifices. L'homme, réalisant qu'il est un être dépendant, a voulu honorer le Créateur en lui offrant eh bien, les fruits de son travail. Donc Caïn, étant laboureur, lui offrait les fruits des arbres, de la terre, tandis qu'Abel, étant berger, lui offrait les moutons. Donc on voit aussi qu'il y a deux types de sacrifices, d'un côté les fruits de la terre, de l'autre côté le sacrifice sanglant. Donc chacun des deux frères offre une partie de ses biens, donc Caïn étant laboureur offre des fruits de la terre, Abel étant berger offre des moutons. Très bien, et alors quand on lit ensuite la suite, donc le verset qui suit, « Et le Seigneur regarda Abel et ses présents, mais il ne regarda point Caïn, ni ce qu'il lui avait offert. » Donc dans la Sainte Écriture, quand on dit que le bon Dieu regarde, c'est toujours un regard d'amour, c'est un regard de complaisance. Quand le bon Dieu porte son regard, c'est toujours un regard de miséricorde. Donc Dieu regarde Abel et ses présents, mais il ne regarde pas Caïn. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il regarde l'un et pourquoi ne regarde-t-il pas l'autre? Qu'est-ce qui n'allait pas dans... Quel était le côté positif donc, dans Abel et quel était le côté négatif dans Caïn? Eh bien, les commentateurs ici nous disent que Abel donc offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Dans la mesure où il offrait des premiers-nés, ça montrait qu'il avait une attention délicate. Il offrait ce qu'il y avait de premier déjà, et puis ensuite la graisse, donc la partie la plus riche de l'animal. Donc il offrait à Dieu ce qu'il y avait de plus précieux. Ça lui semblait tout à fait naturel. Et on voit par là, à travers ce qu'il offre, la pureté de son intention. Il a son cœur qui est totalement tourné vers Dieu, et donc il lui offre ce qu'il y a de plus beau. Tandis que Caïn, qui en tant qu'homme sait très bien qu'il a un devoir vis-à-vis de Dieu, eh bien il offrait, on ne précise pas, on dit qu'il offrait des fruits de la terre en sacrifice, et on ne précise pas justement parce qu'il offrait ce qui lui passait sous la main, mais sans distinction, sans dévotion. Donc c'était un acte machinal qui ne venait pas vraiment du fond du cœur. Et c'est la raison pour laquelle le bon Dieu a regardé le sacrifice d'Abel, mais il n'a pas regardé celui de Caïn. Et ceci est très important parce qu'en soi, ils offraient tous les deux ce qu'ils avaient sous la main. C'est tout à fait logique que Caïn offre des fruits de la terre puisqu'il était laboureur. C'est tout à fait logique qu'Abel offre des moutons puisqu'il était berger. Donc ce n'est pas dans la matière elle-même, mais c'est plutôt dans la manière d'offrir. Donc on voit par là que le bon Dieu, c'est le cœur qui compte. Ce n'est pas tant nos actions qui comptent aux yeux de Dieu que la manière de poser les actes. C'est très important à retenir dans cette histoire de Caïn et d'Abel. Alors ensuite, réaction de Caïn. Donc il ne regarda point, donc Dieu ne regarda point Caïn ni ce qu'il lui avait offert. C'est pourquoi Caïn entra dans une violente colère et son visage en fut tout abattu. Normalement, Caïn, ce qu'il aurait dû faire, enfin, c'est facile de dire après coup, hein, c'était de revenir en lui-même en se disant ben, « si le bon Dieu n'accepte pas mon sacrifice, c'est que j'ai peut-être un problème quelque part. » Essayer de savoir d'où ça vient. Mais au lieu de cela, il se met dans tous ses états, ce qui n'arrange rien, et il ne va faire qu'aggraver sa situation. Donc on va voir que quand on commet une faute, donc là en l'occurrence, donc la faute qu'il avait commise, c'était un manque de piété filiale vis-à-vis de Dieu. Comme il y a eu une faute de son côté, qu'ensuite il n'a pas su donc demander pardon, ni reconnaître sa faute, eh bien il est tombé dans une autre faute. Et après ça va être un enchaînement malheureusement, une décadence donc en cascade comme on va le voir. Donc manque de piété filiale au départ, ensuite jalousie. Donc il est jaloux du fait que le bon Dieu regarde le sacrifice de son frère, pas le sien. Et puis ensuite, colère. Et le Seigneur lui dit, « Pourquoi êtes-vous en colère? Et pourquoi votre visage est-il abattu? Si vous faites bien, n'en serez-vous pas récompensé? Et si vous faites mal, le péché ne sera-t-il pas aussitôt à votre porte? Mais la concupiscence sera sous vous et vous la dominerez. » Donc ici, Dieu donne un avertissement paternel à Caïn. Donc il cherche à le faire réfléchir pour lui montrer que s'il a bien agi, pourquoi il se met en colère? Il ne va pas se mettre en colère parce qu'on a fait du bien. Donc il sera bien récompensé s'il a fait le bien, parce que le bon Dieu est bon, il le récompensera. Et s'il a mal agi, en ce moment-là, plutôt que de se mettre en colère, il faudrait peut-être qu'il demande pardon. Et comme le bon Dieu ne change pas, aujourd'hui c'est la même chose. Quand on a mal agi, le bon Dieu cherche à susciter en nous des actes de contrition pour qu'on revienne vers lui. Or, Caïn dit à son frère Abel, sortons dehors. Donc, après sa colère, ça va être le meurtre de son frère. Et pour accomplir son meurtre, il sort de chez lui. Donc, on voit par là qu'il n'a pas la conscience tranquille. En général, dans la conscience tranquille, on est au contraire content qu'on voit le bien que l'on fait. Mais quand on se sent pas bien, quand on se veut faire du mal, hop, on cherche à s'éclipser. C'est ce qui apparaît ici. Et il ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Il ne voit pas que ses parents, tôt ou tard, ils se rendront bien compte que
Qu'Abel et Bula. Hein.
Et ça montre ici que quand on est sous le feu d'une passion, eh bien on perd la raison. On ne réfléchit pas justement aux conséquences de ses actes. Donc la passion aveugle. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc c'est ici la première mort dans l'histoire de l'humanité, la mort d'Abel. Alors pour saisir ce que fut cette première mort, il faudrait essayer de se transporter en esprit. Ah, c'était pas filmé, hein. Donc au moment où la mort donc, n'avait encore jamais frappé personne. Alors ici, un père jésuite, le père de la chevannerie, qui décrit de façon imagée, à partir de ce que nous savons aujourd'hui de la mort et à partir du texte de la Sainte Écriture, ce que dut être l'attitude d'Adam et Ève en constatant donc, la mort de leur fils, de leur enfant. Donc voici ce commentaire donc imagé qui peut nous aider un petit peu à réaliser un peu ce que fut pour Adam et Ève cette première mort. Il n'est pas probable qu'Adam et Ève, en écoutant la sentence divine qui les condamnait à mort, en aient aussitôt réalisé toute l'horreur. Mais 15 ou 20 ans plus tard, un soir, Abel, l'enfant tendrement aimé, ne rentra pas à l'heure habituelle pour le repas de famille. La nuit vint, personne. Et le frisson d'un horrible pressentiment passa sur le cœur de la mère. Alors, avec Adam, elle partit dans l'ombre en appelant « Abel, Abel !» Pas de réponse. Seulement dans les taillis, la fuite apeurée des animaux qui, jadis avant le péché, venaient se présenter pour recevoir un nom et se faire caresser. « Abel !» Rien. Péché maudit, qui met de telles angoisses au cœur des pauvres parents. Mais voici les pâturages où les deux frères gardent d'habitude leurs troupeaux. Abel ! Pourquoi ces brebis égarées comme sans pasteur ? L'autel est éteint où il aime tant à offrir ses sacrifices à Dieu. Abel, mon enfant, où es-tu ? Là, dans l'herbe, cette forme blanche, immobile, ils y courent. Ah, c'est lui, merci mon Dieu. Abel, Abel, mon fils, te voilà, qu'as-tu ? Réponds-nous. Silence. Ève entoure son enfant de ses bras. Qu'il a froid. Et ce sang rouge qui coule de son front. Les yeux aimés sont clos. Mon enfant, tu dors. Ouvre tes yeux. Regarde-nous. Et elle soulève les paupières. Mais les beaux yeux purs, si tendres pour sa mère, quelques heures plus tôt sont vitreux et fixes. Les paupières retombent. Nuit. Abel, Abel. Serait-ce donc cela, mon Dieu, la mort ? Mais c'est affreux. À genoux maintenant près du cadavre, qui s'efforce en vain de ranimer, Adam et Ève pleurent sur les ravages de leur péché. Puis, le père et la mère ont pris leur fils entre leurs bras. Doucement, comme lorsqu'il était tout petit, Ève serre sur son cœur la pauvre tête qui retombe en arrière, et dans la nuit, ils rentrent en sanglotant. Avec des précautions infinies, ils étendent près du feu leur enfant pour le réchauffer. Peut-être va-t-il se réveiller au baiser de la flamme, mieux qu'à celui de sa mère et sourire à ceux qui le pleurent. Mais les heures passent, interminables heures anxieuses de la première veillée funèbre, de lugubre et inutile attente. Car déjà l'aurore blanchit les lointains, le soleil se lève, les oiseaux chantent, la vie reprend, insouciante et moqueuse autour de ce premier deuil, ô folie du péché. Ce corps immobile, ce sang devenu tout noir, ces mains raides qui jaunissent. Mon Dieu, ce doit être cela, n'est-ce pas, la mort ? Oui, c'est cela, et plus horrible encore. Le troisième jour d'affreuse attente va s'achever comme le second, comme le premier, dans l'agonie des pauvres cœurs broyés. Ève se penche pour baiser encore une fois le front de son fils. Mais non, elle recule, ce n'est plus possible. Elle regarde Adam, ils se comprennent. Il faut emporter cela, le cacher, l'enfouir, l'enterrer, pour se contenter de pleurer sur la première tombe. Oui, c'est cela vraiment la mort. Qu'est-ce donc que le péché ? Pour mériter en toute justice de notre Père du Ciel un pareil châtiment. Ah, comme Dieu, nous avons voulu nous égaler à Dieu, être plus grand que lui, en résistant à sa volonté souveraine, en n'acceptant pas de rester à nos places pourtant heureuses, si riches d'avenir, en refusant d'être les enfants bien-aimés, Et voici que la mort incline nos fronts hautains, ferme nos yeux, clôt nos lèvres, immobilise nos gestes de révoltés, nous couche à terre, plus humiliés que le plus petit des enfants, puisque ce corps d'orgueil va retourner à la poussière d'où il sort. Atroce châtiment que la mort. Non, bienheureux châtiment, si nous voulons le comprendre et l'accepter en tout petit, pour réparer nos folles révoltes contre le Tout-Puissant, nos ingratitudes envers notre Père. Donc vous voyez, c'est bien sûr, c'est très imagé, on ne sait pas si c'est passé exactement comme ça, ce n'est pas un reportage. Mais certainement que ceux d'entre vous qui ont bien connu, malheureusement, ces douleurs terribles de la mort dans leur entourage, eh bien, voient bien que cette description reste tout à fait réaliste et montre un peu ce que ça a pu être le péché de nos premiers parents. Donc là, ce qui est intéressant, c'est toujours se rappeler, quoi, c'est Adam et Ève qui ont commis ce péché originel. Et une des conséquences de ce péché, ça a été la mort d'un de leurs enfants. Donc le bon Dieu a permis que ce soit d'abord, justement, un de leurs enfants qui meure. Dans l'ordre naturel, c'était tout à fait normal que ce soit Adam et Ève qui meurent les premiers. Et pour qu'ils puissent mieux se rendre compte de la gravité de leur péché, le bon Dieu a permis que ce soit d'abord la mort de l'un de leurs fils. Et en plus, une mort gratuite, une mort qui a été faite sous le coup d'une simple colère. Et en plus d'une mort faite par l'un de leurs enfants. Donc en ce moment-là, certainement qu'ils ont mieux réalisé la gravité du péché. Donc saint Paul nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Donc c'est par le péché originel que la mort est entrée dans le monde, mais c'est aussi par le péché de Caïn. Parce que cette première mort, c'est la mort d'Abel par Caïn. Donc le bon Dieu a permis que la première mort soit occasionnée par un crime pour mettre justement davantage en évidence le lien qu'il y a entre la mort et le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, normalement, la réaction qu'on doit avoir aujourd'hui encore, quand on voit un mort, et qu'on avait tendance à en vouloir au bon Dieu, on doit se dire au contraire, on doit dire au maudit péché qui est la cause de ces morts. C'est pas le bon Dieu qui est la cause de la mort, c'est le péché. Alors maintenant, il y a un autre aspect qui est positif et qu'il importe aussi de souligner. C'est comme je l'ai dit, la mort est avant tout le châtiment du péché. Mais il y a une autre leçon à tirer de la mort d'Abel. Si Caïn est pécheur, Abel est juste. Et en tant que juste, Abel est une figure de notre Seigneur. Abel était berger. Abel était le bon pasteur. Lui qui offrait les premiers-nés au bon Dieu. Figure de notre Seigneur qui sera le bon pasteur par excellence. Abel offrait des agneaux en sacrifice. Notre Seigneur sera l'agneau de Dieu qui va s'immoler pour nous en sacrifice. Abel était juste. Abel le juste, image de notre Seigneur qui sera le juste par excellence. Abel meurt tué par son frère. Il annonce la mort de notre Seigneur, tué par ses frères, les Juifs. Et de même que la vie d'Abel fut agréable à Dieu, de même sa mort fut précieuse à ses yeux. Et on voit comment, justement, la mort, qui est châtiment du péché, peut devenir source de vie pour ceux qui l'offrent. Alors maintenant, si après ce geste exécrable, on se tourne vers Caïn, on va voir à nouveau comment le bon Dieu va essayer d'user de miséricorde, encore une fois, à son égard. Le Seigneur dit ensuite à Caïn, « Où est votre frère Abel ?» Donc à nouveau, bon Dieu pose la question, non pas qu'il ne connaîtrait pas la réponse, parce que bon Dieu sait tout, mais c'est pour susciter à nouveau en Caïn un acte de contrition. Donc on revoit encore la miséricorde de Dieu qui est encore prête à s'exercer même après ce crime abominable. Où est votre frère Abel? Et il répondit, je ne le sais pas. Comment Caïn? Tu ne sais pas où est ton frère alors que tu viens de le faire mourir? Donc là encore, un nouveau péché qui apparaît. Après avoir été impie, jaloux, coléreux, fratricide, le voilà menteur. Et donc on voit là encore comment, si on ne sait pas dans la route, dans cette cascade du péché, si on ne sait pas s'arrêter, eh bien on glisse toujours plus bas. Et il ajouta, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et Dieu dit, comment as-tu fait cela? Comment as-tu pu commettre un si grand crime? La voix du sang de votre frère crie de la terre jusqu'à moi. Et alors arrive le châtiment. Maudit sois-tu sur cette terre qui a ouvert son sein pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand vous l'aurez cultivé, elle ne donnera pas son fruit, vous serez fugitif et vagabond sur la terre. Donc la terre sera stérile pour Caïn, châtiment de son péché. Et lui sera vagabond. Donc jusqu'à la fin de sa vie, il devra errer, il ne pourra jamais se fixer nulle part. Alors Caïn répondit au Seigneur, « Mon iniquité est trop grande pour que j'en obtienne le pardon. » Et voilà pourquoi il n'a pas demandé pardon. Il a cru que son péché était plus grand que la miséricorde de Dieu. Et c'était ça son erreur. Il n'y a pas de péché, si abominable qu'il soit, qui ne puisse être lavé par le sang de Dieu. Donc, profitons de cette méditation pour réfléchir un petit peu à tout cela, voir la miséricorde de Dieu qui cherche toujours à s'exercer, voir aussi notre penchant vers le mal qui nous conduit à faire des bêtises, qu'on regrette peut-être, mais peut-être un peu tard. Et puis aussi la conduite de Dieu vis-à-vis des justes, les épreuves que le bon Dieu permet pour les justes. Abel a fait à Dieu son offrande avec un cœur droit et généreux. Et quelle a été sa récompense? Il a été mis à mort par son frère. Alors qu'il avait une conduite irréprochable, il a été la première victime de la condamnation à mort. Donc on voit ici que les desseins de Dieu ne sont pas les nôtres, voyez. Donc ce qui nous empêche de comprendre le plan divin, eh bien, c'est qu'on voit là encore les choses uniquement avec l'œil de la terre. Si on voyait la couronne qu'Abel a méritée par son martyr, eh bien, on comprendrait mieux pourquoi le bon Dieu a permis sa mort. Mais nous, on s'arrête au fait qu'on se dit, ben, c'est injuste. Pourquoi le bon Dieu a permis la mort d'Abel? Donc, il faut essayer de voir les choses sous le regard de l'éternité. Et dès maintenant, on voit, dès l'origine de l'humanité, on voit que la croix est le don que le bon Dieu fait à ses amis. Alors si je vous ai parlé de ce sacrifice d'Abel, c'est uniquement parce qu'à la messe, dans la prière qui suit la consécration, le prêtre demande à Dieu de bien vouloir agréer le sacrifice qu'il offre, comme il a bien voulu agréer le sacrifice d'Abel. Donc en relisant à la messe ces paroles de... qui suivent la consécration, donc maintenant vous aurez un peu plus en tête ce que fut ce sacrifice d'Abel. C'est une première figure de notre Seigneur. Alors après, ce serait à vous d'essayer, dans le silence, dans la prière, de réfléchir un peu plus à cela pour essayer d'en tirer profit. Ce ne sont que des réflexions qui sont là pour alimenter ensuite vos propres réflexions, mais c'est ensuite au bon Dieu de vous parler, donc pour que vous puissiez faire en sorte que ces leçons s'impriment vraiment profondément dans votre âme. Alors on va arrêter là pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir aller à la chapelle. Nous allons chanter ensemble la prière du soir de l'église, qui est la prière des complis, une prière qui est paisible. Dans le cœur de la prière des complis sont des psaumes, et le soir sont des psaumes de confiance que l'Église nous met sur nos lèvres pour justement nous disposer au sommeil de la nuit. Donc essayons de bien faire cette prière et ensuite de prendre un bon repos. Je vous fais, il y a une suite, donc un lien logique, bon, qui reste dans l'atmosphère des autres instructions que vous avez, mais celles que je vous fais forment elles-mêmes un tout. Et donc le thème que j'ai voulu développer pour approfondir un petit peu un point, c'est le thème de l'alliance. Et là où je veux en venir en fait, c'est de vous aider à bien comprendre la grandeur de la messe, parce que la messe reproduit le sacrifice de la nouvelle alliance. Et donc, on part très loin, on est parti de l'Ancien Testament, où il va y avoir trois sacrifices qui sont les sacrifices annonciateurs de l'alliance que Dieu va conclure avec son peuple au temps de Moïse. Donc là, on a vu déjà le premier sacrifice, le sacrifice d'Abel. Et on va voir maintenant d'abord le sacrifice d'Abraham, et puis après je dirai un mot aussi du sacrifice de Melchisédek, puisque ce sont les trois sacrifices dont il est fait mention à la messe après la consécration. Sacrifice d'Abel, sacrifice d'Abraham, sacrifice de Melchisédek. Donc ces trois sacrifices sont des images, déjà des figures du sacrifice de notre Seigneur sur la croix. Et ces sacrifices annoncent l'alliance que notre Seigneur va contracter dans l'Ancien Testament avec son peuple et dans le Nouveau Testament avec son Église. Alors, d'abord, le sacrifice d'Abraham. Donc, on lit au livre de la Genèse, je vous donnerai le texte tout à l'heure pour vous permettre ensuite de le méditer, si vous le souhaitez, ainsi que le texte de l'Ancienne Alliance, ensuite, dont on parlera aussi dans un instant. Mais je n'ai pas voulu vous le montrer maintenant pour éviter de vous distraire. Donc, on lit au livre de la Genèse, « Abraham tomba la face contre terre, et Dieu lui parla ainsi, « Voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de peuples. J'instituerai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race, je serai votre Dieu. » Donc Dieu annonce ici deux choses à Abraham. Il annonce qu'il sera le père d'une multitude de peuples, et puis il annonce aussi qu'il va contracter avec ce peuple une alliance perpétuelle. Donc en lisant ce passage du livre de la Genèse, chapitre 17, versets 3 à 8, on se dit, Abraham, qu'est-ce qu'il a eu de la chance d'entendre le bon Dieu lui faire une telle promesse. Et c'est vrai. Mais ici, il ne faut pas croire pour autant que ce regard de préférence de Dieu sur Abraham ne va lui attirer que des satisfactions. Comme je vous l'ai dit hier, Dieu nous aime en Dieu et non pas uniquement comme homme. Et par conséquent, le bon Dieu voit beaucoup plus loin que nous. Et comme on va le voir déjà dans l'Ancien Testament et ensuite encore plus à travers notre Seigneur, que l'amour que le bon Dieu nous porte est un amour béatifiant, donc un amour qui doit nous rendre bienheureux, mais sur la terre, c'est un amour crucifiant. C'est la croix qui est le chemin qui doit nous conduire au ciel. Donc l'amour de Dieu pour ses créatures, ce n'est pas un amour mièvre, ce n'est pas un amour sentimental, ce n'est pas un amour qui ne procure que des jouissances, mais c'est un amour viril, un amour fort. Et un amour qui, va, par conséquent, va nous sortir de nous-mêmes et exiger qu'on soit prêt à sacrifier pour lui ce qu'on a de plus cher. Et c'est ce qui apparaît dans cette épreuve terrible que Dieu va imposer à Abraham. Alors en vous disant cela, bien sûr, je préviens tout de suite un écueil, il ne faut pas vous mettre à vous inquiéter en disant « alors qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête maintenant si j'apprends à aimer davantage le bon Dieu ?» Non, c'est tout simplement vous aider à mieux porter votre croix, et donc au lieu de rêver de croix imaginaires qui n'arriveront pas, de vous aider à mieux accepter dans la vie de tous les jours eh bien, les contrariétés qui peuvent se produire, parce que c'est cela la croix. La croix, ce n'est pas forcément des grosses épreuves qui arrivent comme ça tout d'un coup. Ça peut arriver aussi, mais c'est déjà tout ce qui peut nous contrarier à valeur de croix pour celui qui a la foi. Donc après cela, Dieu tenta Abraham. Et donc il donne toujours les tentations, les épreuves que mon Dieu envoie sont proportionnées à nos faiblesses. Donc Abraham, c'était pas n'importe qui. Donc après cela, Dieu tenta Abraham. Abraham, à cette époque, au moment où il va être éprouvé par Dieu, il vivait heureux, en compagnie de Sarah, son épouse, d'Isaac, son fils. dans un bonheur sans nuages, après de nombreuses tribulations qu'il avait dû subir parce qu'il avait déjà eu plusieurs épreuves. Il avait dû quitter son pays. Ensuite, il y a eu la stérilité de sa femme. Après, finalement, bon, on a fini à 90 ans par mettre un enfant au monde, mais c'est quand même pas très commun. Et puis ensuite, des querelles qui n'en finissaient pas entre ses bergers et ceux de Lot, son neveu. Et puis donc, Dieu avait fini par lui donner un fils, un beau fils, Isaac. Et il lui a promis qu'il serait le chef d'une grande postérité. Donc, il avait de quoi être fier de sa descendance. Et puis voilà le bon Dieu qui lui dit « Abraham, Abraham ». Abraham lui répondit « Me voici ». En latin, « me voici », ça se dit « atsum ». Et « atsum », c'est la réponse que fait le séminariste chaque fois qu'il gravit un ordre. Le directeur du séminaire fait l'appel nominal pour savoir si les séminaristes sont bien présents et sont bien prêts aussi à monter donc vers l'autel du sacrifice. Et la réponse du séminariste, c'est « atsum ». Donc ici, Dieu tente Abraham. Abraham lui répondit « atsum ». Me voici. Dieu ajouta, « Prenez Isaac, votre fils unique, qui vous est si cher, et allez en la terre de vision, et là, vous me l'offrirez en holocauste sur une des montagnes que je vous montrerai. » Terrible épreuve, hein ? Comment Dieu peut-il commander à un père d'être le meurtrier de son propre enfant ? Donc, or bien terrible, prends ce fils que tu aimes tant, ce fils chéri, ce fils bien-aimé, ton fils unique, tu n'en as pas d'autre, et offre-le-moi en holocauste sur la montagne que je te montrerai. Alors Abraham, en ce moment-là, en entendant une chose pareille, il aurait pu se dire, naturellement, comment vous pouvez dire une chose pareille ? Moi, tu es mon fils, mais quand même, vous êtes Dieu, vous ne pouvez pas me demander une chose pareille. Eh bien si. Et en plus, vous m'avez dit qu'il sera le père d'une grande postérité, vous me demandez de mettre à mort, mais comment voulez-vous que vos promesses se réalisent si je le mets à mort ? Donc, Abraham était face à un mystère. Comment concilier le fait que cet enfant doive être le chef d'une postérité nombreuse ? Dieu le lui avait dit, et Dieu ne peut pas se tromper. Avec l'ordre maintenant de le mettre à mort. Donc Dieu promet une chose, et il en commande une autre qui est apparemment contradictoire. Eh bien, un vrai serviteur de Dieu ne se trouble pas lorsque les événements paraissent contraires à ses promesses. Parce que lorsque Dieu a promis une chose, 1000 obstacles peuvent paraître en entraver l'exécution, on peut compter sans aucun doute sur la réalisation de ses promesses. Et c'est très important pour nous, dans ce cœur de la crise de l'Église que nous traversons, on est face aussi à un mystère. Donc chaque fois qu'on est en face à un mystère, on ne comprend pas. Un mystère reste incompréhensible. Et l'épreuve de la croix est bien un mystère. Donc Abraham était face à un mystère, c'est sûr. Un grand mystère. Et bien dans le mystère de la passion de l'Église, c'est un peu pareil. Dieu a promis une chose. Dieu a promis d'assister son Église jusqu'à la fin des siècles. Tu es Pierre, et cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévendront pas contre elle. Promesse de notre Seigneur. Maintenant, vous ouvrez les yeux, vous regardez ce qui se passe à Rome, et ben, y a un mystère là. Le bon Dieu semble avoir abandonné son Église. Le pape agit d'une façon qui n'est pas du tout celle qui est digne du poste qu'il occupe. Mais malgré tout, eh bien, on doit accepter les deux bouts de la chaîne. D'un côté, la promesse de Dieu, de l'autre côté, accepter cette réalité. Donc on sait très bien, malgré tout, que le bon Dieu n'abandonnera pas son Église. Donc d'un côté, je dois croire en la divinité de l'Église, et puis je ne dois pas pour autant accepter tout ce que Rome proclame sous prétexte que l'Église est divine. Je dois aussi accepter le mystère de l'Église, qui est divine certes, mais qui est aussi humaine. C'est la même chose d'ailleurs dans laquelle on s'est retrouvé aussi au moment de la Passion. La Passion, ça restait encore un mystère, c'est un mystère invraisemblable. D'un côté, vous lisez le livre du Deutéronome, il y a écrit dans le livre du Deutéronome, vous prenez le livre, « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Donc le juif qui connaît la Sainte Écriture, il lit « Dieu dit, maudit celui qui est pendu au bois. Et c'est pour ça que les Juifs voulaient que notre Seigneur soit pendu, et soit justement pendu au bois, afin que, de prouver qu'il n'était pas Dieu. Et on voit cet homme qui a dit qu'il était Dieu, il est pendu au bois. Donc, comme on l'a dit, maudit celui qui est pendu au bois, il ne peut pas être Dieu. C'est une simple logique, mais vous voyez que le bon Dieu dépasse notre simple logique humaine. Et les commentateurs disent bien, justement, que notre Seigneur a porté, c'est sûr, le poids de nos péchés et a été comme maudit de Dieu son Père, non pas certes qu'il était maudit, mais il portait sur lui la malédiction de notre faute, ça c'est sûr. Il était comme identifié au péché sur la croix. Donc, d'un côté, il y avait un texte qui semblait dire que ce serait impossible que le Fils de Dieu puisse être pendu au bois, et puis de l'autre côté, bien, notre Seigneur était vraiment Fils de Dieu, était vraiment pendu au bois. Donc, vous voyez, chaque fois qu'on est face à un mystère, ça dépasse la logique humaine. Et on a malheureusement en face de nous des gens qui sont beaucoup trop raisonneurs et qui veulent résoudre des mystères avec leur simple intelligence humaine. Donc, quand on est face à un mystère, ce qu'il faut, c'est savoir suspendre son jugement et puis accepter la réalité. Donc, il ne faut pas douter de la divinité de l'Église eu égard à ce qu'on voit à Rome. Et en même temps, on doit être lucide et ne pas transformer les faits objectifs de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on estime qu'ils ne cadrent pas avec la théorie. Abraham se leva donc avant le jour, prépara son âne et prit avec lui deux serviteurs et Isaac, son fils. Ayant coupé le bois qui devait servir à l'Holocauste, il s'en alla au lieu où Dieu lui avait commandé d'aller. Le troisième jour, levant les yeux en haut, il vit le lieu au loin. Donc il se lève avant le jour. Donc il n'a pas cherché à essayer de retarder au maximum l'échéance, en disant, bon, moi je vais essayer de partir le plus tard possible le matin. Et on voit par là cette disposition d'âme qu'il avait d'obéir à Dieu. Le troisième jour, levant les yeux en haut, il vit le lieu au loin. Donc l'épreuve va durer 3 jours. Donc chaque épreuve dans notre vie a une certaine durée déterminée par la Providence. Et ce nombre de 3 jours n'est pas du tout un hasard. Je vous ai dit, l'Ancien Testament est une annonce, une figure du Nouveau. Notre Seigneur, pendant 3 jours, restera au Temple. Épreuve terrible de la Sainte Vierge, qui ne retrouvera son enfant, âgé de 12 ans, qu'au bout de 3 jours. Et ces 3 jours même de notre Seigneur qui restait au Temple étaient déjà aussi eux-mêmes une figure des 3 jours que notre Seigneur passera au tombeau. Et si Jonas a passé 3 jours dans le ventre de la baleine, c'était aussi pour la même raison, parce que ces 3 jours dans le ventre de la baleine étaient une image, une figure de notre Seigneur qui passerait 3 jours au tombeau. Donc Abraham, pendant ces 3 jours, a été il avait vraiment le glaive dans l'âme, en pensant qu'il allait devoir immoler son propre fils. Et puis donc, au bout de 3 jours, il voit au loin la montagne sur laquelle il doit immoler son fils. Donc il s'agit du mont Moria, où sera édifié le temple de Salomon. Donc ce lieu se trouve à Jérusalem, et se trouve aujourd'hui dans la mosquée d'Omar, malheureusement. Et si vous allez rentrer dans cette mosquée, donc vous verrez le rocher précis sur lequel Abraham a pris son fils et était prêt à accomplir ce que Dieu le Père attendait de lui. Et il dit à ses serviteurs, « Attendez-moi ici avec l'âne. » Donc lorsqu'il se trouve au pied de la montagne, il dit à ses serviteurs d'arrêter là. Nous ne ferons qu'aller jusque-là, mon fils et moi, et après avoir adoré, nous reviendrons aussitôt à vous. Donc pour éviter d'être embarrassé par les serviteurs, qui certainement auraient empêché Abraham de donner le coup fatal à son fils, il demande à ses serviteurs de rester au pied de la montagne. Et donc là arrive le passage le plus émouvant qui rapporte ce sacrifice. Abraham et Isaac vont donc gravir tous les deux la montagne. Donc Abraham prend le bois pour l'Holocauste, il met le bois sur son fils Isaac et lui porte en ses mains le feu et le couteau. Comme vous le voyez tout de suite, Isaac qui porte sur le dos le bois du sacrifice sur lequel il doit être immolé est une figure de notre Seigneur qui portera le bois de la croix sur laquelle il offrira le sacrifice de sa vie pour le rachat de nos âmes. Et d'après les conjectures qu'on peut faire, d'après tous les éléments qu'on a dans la Sainte Écriture, on sait qu'Isaac avait alors entre 25 et 37 ans, donc à peu près l'âge de notre Seigneur. Et Abraham porte en ses mains le feu et le couteau. Donc le feu, il s'agit d'une braise incandescente ou d'une torche allumée qu'il a pour mettre le feu au bûcher. Et tandis qu'ils marchaient ainsi tous les deux, Isaac dit à son père, « Mon père !» Abraham lui répondit, « Mon fils, que voulez-vous ? » ?»« Voilà, dit Isaac, le feu et le bois. Où est la victime pour l'Holocauste ?» Grave question, hein. Abraham lui répondit, « Mon fils, Dieu aura soin de fournir lui-même la victime de l'Holocauste. » Ils continuèrent donc à marcher ensemble. Alors vous avez un commentaire ici fait par Saint Jean Chrysostome qui dit « Quelle parole que celle-là, mon père ! Quand on est sur le point d'égorger un agneau ou tout autre animal, s'il se fait entendre un bêlement, un cri plaintif, ces sons inarticulés nous touchent de compassion et nous émeuvent de pitié. Que penser alors des effets produits sur Abraham que cet appel d'Isaac ? Quels sont les sentiments d'Abraham qu'il éprouve à ce moment-là ? En disant à Isaac que Dieu pourvoira lui-même à la victime, Abraham prophétise une seconde fois. Donc il prophétise que, en fait, Dieu va y pourvoir, c'est ce qu'on verra donc, dans un instant. Et ils vinrent au lieu que Dieu avait montré à Abraham. Donc après ces 3 jours de marche, 3 jours d'épreuve, 3 jours d'angoisse, il gravit la montagne et une fois arrivé au lieu de l'Holocauste, il y dresse un autel. Il dispose dessus le bois pour l'Holocauste, il attache son fils Isaac, il le met sur le bois qu'il avait arrangé sur l'autel. Et en même temps, il étend la main, il prend le couteau pour immoler son fils. Donc là, il y a encore un passage certainement qui mérite réflexion. Donc là, je vous livre encore quelques réflexions de Saint Jean Chrysostome. Admirons une nouvelle fois l'énergie de ce saint patriarche. Comment peut-il construire cet autel ? Comment en a-t-il la force ? Comment l'angoisse où il se trouve ne lui enlève-t-il pas tout sentiment ? Il élève l'autel, il y place le bois, puis il lie Isaac, saisit le glaive de sa main droite et se prépare à immoler son fils. Quel spectacle que cette main armée contre un fils ! Dans la vie de tous les jours, lorsque dans une famille il y a un malade, toute la famille est abattue. On multiplie des neuvaines, on fait dire des messes pour implorer la guérison, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Or, représentez-vous Abraham dans cette même épreuve, mais docile à l'ordre de Dieu. Il dompte sa nature et le commandement de Dieu est plus efficace que la voix de ses entrailles. Et après avoir porté un regard sur Abraham, on peut aussi regarder Isaac. Isaac, donc, qui a, je vous dis, une trentaine d'années, donc c'est un homme fort. Il pouvait très bien se défendre contre son père. Il comprend bien que la victime, c'est lui. Il a fini par le comprendre. Mais il n'oppose aucune résistance. Il se laisse lier par son père. Il ne proteste pas contre le sacrifice. Mais à l'instant même, l'ange du Seigneur lui cria du ciel, « Abraham, Abraham !» Donc il appelle 2 fois pour être sûr que vous avez compris. Il lui répondit, « Me voici, Atsum. » Donc à nouveau, cette promptitude à l'appel de Dieu. L'ange ajouta, « Ne mettez point la main sur l'enfant et ne lui faites aucun mal. » Donc un jour, la figure fera place à la réalité, et alors la victime sera réellement immolée. Notre Seigneur sera réellement immolé par son Père, par la volonté de son Père. Mais aujourd'hui, il suffit qu'Abraham ait été disposé dans son cœur à accomplir cette immolation pour satisfaire la volonté de Dieu. Et donc, vous comprenez mieux, normalement, à partir de cela, à partir de ce texte, ce qu'on avait déjà lu hier, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alors le bon Dieu n'a pas voulu qu'Abraham ne tue son fils, bon, pour différentes raisons. Une des raisons, c'était, même Dieu étant le maître de la vie, aurait très bien pu le commander, cela. Mais s'il ne l'a pas fait, c'était pour éviter les déviations qu'on a pu voir par la suite, malheureusement, dans des fausses religions. Par exemple, rien qu'au Mexique, lors de la conquête des Espagnols, le roi se faisait un point d'honneur d'offrir 20 000 jeunes gens par an aux faux dieux. Et donc l'ange ajoute, « Je connais maintenant que vous craignez Dieu, puisque pour m'obéir, vous n'avez point épargné votre fils unique. » Donc vous voyez, c'était le test de l'amour, quoi, de l'amour de Dieu. Je connais maintenant que vous craignez Dieu, que vous l'aimez, puisque pour m'obéir, vous n'avez point épargné votre fils unique. Alors, on va dire, mais si, il a épargné finalement, parce qu'il n'a pas touché. C'est vrai, il n'a pas touché son fils. Mais là, on voit encore, comme on l'avait vu hier pour le sacrifice d'Abel, que pour le bon Dieu, c'est l'intention qui compte. Il n'a pas touché son fils, c'est vrai, son fils est sain et sauf, mais il avait l'intention dans son cœur d'obéir à Dieu, de l'immoler. Et cette immolation intérieure dans son âme a suffi pour obtenir le mérite. Même si, en fait, après, le bon Dieu lui a demandé de ne pas le toucher, donc son fils n'est pas mort. Abraham, levant les yeux, aperçut derrière lui un bélier qui s'était embarrassé avec ses cornes dans un buisson. Et l'ayant pris, il l'offrit en holocauste au lieu de son fils. Et il appela ce lieu d'un nom qui signifie « le Seigneur voit ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui « le Seigneur verra sur la montagne ». Donc finalement, un bélier a pris la place et c'est lui qui a été immolé. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et lui dit « Je jure par moi-même, dit le Seigneur, que puisque vous avez fait cette action et que pour m'obéir vous n'avez pas épargné votre fils unique, je vous bénirai et je multiplierai votre race comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Votre postérité possédera les villes de ses ennemis et toutes les nations de la terre seront bénies dans celui qui naîtra de vous parce que vous avez obéi à ma voix. » Donc on voit par là, vous voyez, que le bon Dieu nous envoie des épreuves, mais si nous savons surmonter ces épreuves, eh bien il y a des bénédictions qui sont rattachées à cela. Des bénédictions qui dépassent tout ce qu'on peut concevoir. Le bonheur du ciel est infiniment plus beau que l'on peut imaginer. Et les épreuves de la vie présente, qui n'ont qu'un temps, nous permettent d'embellir notre couronne pour le ciel. Maintenant, il faut voir à travers Isaac, comme je vous l'ai dit, une figure de notre Seigneur. Et donc, si on veut bien comprendre l'amour de Dieu pour nous, il est très important de bien regarder ces figures et voir de quelle manière elles peuvent nous aider à approcher le sacrifice de notre Seigneur. Tout d'abord, Isaac était fils unique. Notre Seigneur est aussi fils unique. Isaac était un fils légitime et chéri. Offre ton fils qui t'est si cher. Offre ton fils bien-aimé. Dieu le Père dira à la transfiguration, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Isaac portait le bois sur ses épaules. Notre Seigneur portera la croix sur ses épaules. Isaac, sans avoir péché, allait être immolé. Notre Seigneur, sans avoir péché, a été crucifié. Isaac a été égorgé, il ne l'a pas été. Il l'a été dans le sens où le Père était prêt à accomplir ce sacrifice. Il ne l'a pas été puisqu'il n'y a pas touché. Et notre Seigneur, lui, il a été immolé, mais aussi sans l'être, d'une autre manière, dans la mesure où il est Dieu, et en tant que Dieu, il est bien vivant. Dieu n'est pas mort. Donc notre Seigneur est mort par la chair, mais sa divinité est restée au-dessus des souffrances. L'un et l'autre aussi ont été offerts par leur père. Donc Isaac a été offert par son père et notre Seigneur a été livré par son père. Il n'a point épargné son propre fils et il l'a livré pour nous tous. Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 32. Enfin, de même qu'un bélier a été immolé à la place d'Isaac, de même l'agneau spirituel qu'est notre Seigneur a été offert à la place des hommes que notre Seigneur représentait. Alors, pour se souvenir de ce miracle, il y avait une fête qui a été instituée, qui avait lieu chaque année, le premier jour du septième mois, la fête qu'on appelait la fête des trompettes, donc dans l'Ancien Testament. Donc, les Juifs soufflaient dans des trompes faites avec des cornes de bélier, en souvenir de cette délivrance miraculeuse. Donc, quelles sont les leçons à retirer de cet épisode pour nous-mêmes ? Tout d'abord, reconnaître l'amour de Dieu pour nous. Donc, comprendre l'amour de Dieu le Père, qui n'a pas épargné son Fils unique par amour de nous. Donc, en méditant le drame qui s'est déroulé dans le cœur d'Abraham, on peut deviner la violence que Dieu a dû se faire, en quelque sorte, presque à lui-même, Dieu le Père, en livrant son Fils bien-aimé à la plus terrible des morts et pour nous arracher à la mort éternelle. On pourrait aussi regarder cet épisode en essayant de rapporter ces paroles aussi à la Sainte Vierge. De la même manière que le Saint-Esprit donc a pu dire à Abraham, prends ton Fils unique Jésus, prends ton Fils unique donc que tu aimes tant, eh bien de la même manière, le Saint-Esprit a pu dire à la Sainte Vierge, prends ton Fils unique que tu aimes et offre-le-moi en holocauste sur la montagne. Alors quelles sont les applications maintenant de cela par rapport à nous-mêmes ? Eh bien, en voyant Abraham qui offre à Dieu ce qu'il a de plus cher, il nous faut comprendre la nécessité pour nous-mêmes d'aimer Dieu par-dessus tout. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi, nous dit notre Seigneur. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 et 38. Donc la question qu'on doit toujours se poser, c'est quel est le centre de ma vie ? Quelle est ma préoccupation première ? Est-ce que c'est de jouir des plaisirs de la vie ? Est-ce que c'est de briller aux yeux du monde ? Est-ce que c'est de rechercher des succès purement humains ? Et puis on voit que ça ne doit pas être cela. Donc on doit avant tout chercher la volonté de Dieu. Si bien que si le bon Dieu me demande un jour de sacrifier telle ou telle chose, je dois être disposé à lui dire oui. Sans pour autant donc m'imaginer le pire dès maintenant et ce qui pourrait arriver, c'est pas ce que le bon Dieu veut. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. C'est en vivant aujourd'hui l'instant présent que je pourrai porter une croix plus lourde si le bon Dieu m'en fait la grâce. Le sacrifice d'Abraham est également le modèle de ce que le bon Dieu, au cours de l'histoire du monde, demande à tant de pères et de mères de famille. Donc en temps de persécution, combien de parents ont vu mourir sous leurs yeux leurs propres enfants, comme par exemple la mère des Maccabées dans le livre de l'Ancien Testament. C'est aussi le modèle des sacrifices réclamés des parents chrétiens chaque fois que Dieu appelle un de ses enfants à son service. Donc comprendre la nécessité de se détacher de ses enfants, être prêt à les laisser accomplir la volonté de Dieu quoi qu'il en coûte. Les desseins de Dieu ne sont pas les nôtres. Un petit mot sur le troisième sacrifice dont il est fait mention à la messe, celui de Melchisédek. Donc, au temps d'Abraham, vit à Salem un roi du nom de Melchisédek. La ville de Salem n'est autre probablement que la ville de Jérusalem. On dit que ce Melchisédek était prêtre du Très-Haut. Donc ça veut dire qu'il servait le vrai Dieu. Et voilà qu'un jour, Lot, qui était le neveu d'Abraham, s'est fait arrêter à Sodome.
Sodome et Gomorre, donc s'est fait arrêter à Sodome, par Codor Laomor et quatre autres rois qui avaient leur territoire autour de la mer Morte. Donc le neveu d'Abraham se fait arrêter par donc, cinq rois. Alors en apprenant cela, le sang d'Abraham ne fait qu'un tour, il va chercher son neveu et il arrive à poursuivre les vainqueurs et à récupérer donc Lot et en même temps le butin. Et c'est à son retour justement qu'il va croiser Melchisédek. Donc Melchisédek vient au devant de lui et offre du pain et du vin et le bénit en disant: béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a fait le ciel et la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et ensuite, Abraham lui donne la dîme de tout. Donc Melchisédek bénit Abraham et Abraham lui donne la dîme. Alors, tous les pères de l'Église ont supposé qu'à travers cette offrande du pain et du vin, c'était un vrai sacrifice que Melchisédek avait offert à Dieu. Et c'est ce qui explique que le pain et le vin étant la matière de la Sainte Eucharistie, qu'il ait fait mention de Melchisédek, donc au canon de la messe. Et ensuite, un autre passage encore dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament, le psaume 109, le premier psaume que l'on a au Vêpres le dimanche, il est dit du Messie futur, donc de notre Seigneur: vous êtes prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, notre Seigneur n'est pas prêtre selon l'ordre d'Aaron, il est prêtre de l'Ancien Testament, mais il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alors, qui était ce Melchisédek, en dehors du fait qu'il était donc prêtre du Très-Haut et qu'il était roi de Jérusalem? D'abord, en tant que prêtre et en tant que roi, il était une image de notre Seigneur qui est prêtre, notre Seigneur qui est roi. Et puis ensuite, il était dit de lui qu'il était sans père ni mère, sans généalogie. Ce qui ne signifiait pas pour autant qu'il n'avait pas de mère ni de père, mais qu'on ne les connaissait pas, tout simplement. Et donc, dans la mesure où il était sans père ni mère, il figurait notre Seigneur qui est sans père dans sa nature humaine et sans mère dans sa nature divine. Donc au ciel, notre Seigneur a un père, il n'a pas, bien sûr qu'il y a la Sainte Vierge qui est au ciel maintenant, mais au départ, dans sa nature divine, il n'a que Dieu pour père. Dans sa nature humaine, il a une mère, la très sainte Vierge Marie, mais il n'a pas eu de père. Donc voilà la troisième figure du sacrifice de notre Seigneur, donc qui apparaît à travers Melchisédek. Alors maintenant, on arrive à l'alliance. Le but, c'était bien de cela, en voyant les trois sacrifices de l'Ancien Testament, c'est d'arriver à cette première alliance, l'alliance du Sinaï. Donc vous connaissez le terme d'Ancien Testament et Nouveau Testament. Un terme qui est équivalent, c'est Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Donc qu'est-ce que c'est que cette Ancienne Alliance? L'Ancienne Alliance est une promesse d'appartenance perpétuelle et définitive. Dieu promet de porter un regard de choix, un regard privilégié sur son peuple, le peuple qu'il s'est choisi, le peuple élu. Le peuple élu, c'est le peuple choisi. On fait élection, on choisit. Donc promesse d'appartenance perpétuelle et définitive. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence des premières alliances qui avaient pu déjà apparaître, soit avec Noé, soit avec Abraham, les premières alliances qu'on avait vues étaient simplement de simples promesses. Tandis qu'ici, cette alliance ne va pas être unilatérale, elle va être bilatérale. Donc Dieu va exiger quelque chose en retour du peuple qu'il s'est choisi. Alors qu'est-ce qu'il va exiger? Eh bien, il va exiger l'observation de ses commandements. Donc il y a un contrat, dans une alliance, il y a un contrat bilatéral, donc un engagement réciproque. Dieu s'engage à aimer son peuple d'un amour de préférence, mais il exige en retour que son peuple l'aime par-dessus tout. Si vous écoutez ma voix et observez mon alliance, vous serez mon peuple privilégié parmi tous les peuples. Car toute la terre est à moi, mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation consacrée. Donc si vous écoutez ma voix, si vous observez mon alliance. Donc le terme d'alliance signifie union. Quand on fait une alliance avec quelqu'un, c'est dans le but de s'unir à lui. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, on utilise le terme d'alliance pour désigner l'anneau qui rappelle l'alliance conclue par les époux le jour du mariage. C'est vrai qu'il existe plusieurs sortes d'alliances. Vous avez des alliances qui sont des pactes d'amitié. On voit ça dans la Sainte Écriture, par exemple, entre David et Jonathas. Donc une alliance de pure amitié. Ensuite, il y a aussi les alliances politiques, qui sont des accords qui sont conclus entre différents peuples. Mais l'alliance par excellence, c'est l'alliance matrimoniale, c'est l'alliance du mariage. Et justement, l'union contractée entre Dieu et le peuple élu est une union matrimoniale. Donc on va retrouver toutes les caractéristiques que l'on voit dans le mariage. Le mariage résulte d'un choix. Or, c'est librement que Dieu a choisi tel peuple plutôt que tel autre. Et comme on le verra, c'est librement aussi que le peuple s'est soumis à lui en promettant d'observer son alliance. Donc, il y a déjà un choix libre et réciproque. Ensuite, dans le mariage, il y a l'échange des consentements. Donc, Dieu consent à aimer son peuple d'un amour de préférence et il demande en échange que ce peuple l'aime d'un amour de préférence. L'alliance va être concrétisée par les 10 commandements, mais les 10 commandements se résument dans le double amour de Dieu et du prochain. Et donc c'est bien une alliance d'amour. Et puis enfin, le mariage débouche sur une unité de vie, donc une vie commune, qui est une vie d'amour, et Dieu va justement rechercher à vivre avec son peuple dans une grande intimité d'amour. C'est ce que le bon Dieu recherche, déjà dans l'Ancien Testament. Alors de la même manière qu'au moment du mariage, il y a un rituel, là il y a eu aussi un rituel de l'alliance. Donc le texte est dans le livre de l'Exode, je vous passerai le texte que vous pourrez méditer ensuite. Donc c'est au chapitre 24e de l'Exode. Moïse s'étant levé de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 pierres dressées pour les 12 tribus d'Israël. Donc il bâtit un autel, il dresse 12 pierres pour symboliser les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes gens, enfants d'Israël, et ils offrirent à Yahvé des holocaustes, et ils sacrifièrent des taureaux en sacrifice pacifique. Donc il y a un autel, sur cet autel, il sacrifie des taureaux. Moïse prit la moitié du sang des victimes, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Donc il fait deux parts avec le sang, une partie qu'il met de côté, et une deuxième avec laquelle il asperge l'autel. Ensuite, ayant pris le livre de l'Alliance, il le lut au peuple, qui répondit « Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous lui obéirons ». C'est un moment très important, ça, dans l'histoire d'Israël. Donc Moïse lit le texte des 10 commandements, avec tous les commentaires, et le peuple dit, d'une seule voix, « Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons, nous lui obéirons. » Donc c'est le oui prononcé par le peuple. Que fait Moïse en ce moment-là? Il prend le sang, et il asperge le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance, que Yahvé a conclu avec vous, à condition que vous gardiez toutes ses paroles. » Donc c'est déjà le sang de l'Alliance, vous voyez. Donc à la messe, le prêtre dira, voici la coupe du salut, et le sang de la nouvelle Alliance, et donc on retrouvera le sang. Donc c'est très important de noter cela. L'alliance que Dieu conclut avec son peuple est une alliance d'amour. Mais cette alliance a lieu au cours d'un sacrifice. Et donc on voit par là qu'on ne doit pas dans la religion vouloir dissocier ce double aspect d'amour et de sacrifice. Le double aspect d'amour et de sacrifice sont intimement liés. Et ça apparaît ici dans ce rituel de l'Ancienne Alliance. Ça va réapparaître dans le rituel de la Nouvelle Alliance et ça va se retrouver dans toute vie chrétienne, qui est une image, une reproduction de la vie de notre Seigneur. Donc il faut bien, c'est pour ça que je vous laisserai ce texte, que vous puissiez vous-même le méditer et voir le rapport ensuite entre ce texte que vous pourrez prendre et puis lire les paroles de la consécration pour voir comment l'Ancienne Alliance était déjà une annonce, une figure de la Nouvelle Alliance. Et après alors la consécration de l'Alliance, Dieu rappelle à son peuple la nécessité de choisir entre deux voies, donc celle qui mène à Dieu, celle qui conduit en enfer. Voici que je mets aujourd'hui devant vous une bénédiction et une malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement d'Yahvé, votre Dieu, que je vous commande aujourd'hui. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement d'Yahvé, votre Dieu, et si vous détournez de la voie que je vous commande en ce jour, en allant vers d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Malédiction s'il se détourne du vrai Dieu pour aller vers des faux dieux. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Et en entendant cela aussi, ça nous aide à avoir un esprit vraiment catholique et comprendre qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, que c'est ce seul Dieu qu'on doit adorer. Donc c'est contraire, bien sûr, à tout ce faux écuménisme que l'on peut voir, hélas, aujourd'hui. Et à la fin encore de sa vie, Moïse, qui garde ça bien en mémoire, qui a compris sa mission, il va rappeler l'ordre de Dieu. « Je vous ai proposé, dit Yahvé, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta postérité, en aimant Yahvé ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. » Donc choisis la vie afin de vivre. Dieu nous demande le choix entre la vie et la mort, mais il demande bien sûr, il nous laisse le choix entre la vie et la mort, mais il nous demande de choisir la vie, bien sûr, parce qu'il nous aime. Donc il veut qu'on fasse le bien. Aussi retenons que Dieu a conclu son alliance par un sacrifice, figure du sacrifice de son Fils. Donc en voyant ce sang qui est répandu dans la consécration de l'Ancienne Alliance, on discerne déjà une figure du sang de notre Seigneur qu'il versera pour le salut de nos âmes. Comme dit saint Paul, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Hébreux chapitre 9, verset 22. La rémission des péchés est due au sang de notre Seigneur. Et le prêtre à la messe le rappelle. Ce sang répandu pour beaucoup en rémission des péchés. C'est pour ça qu'on doit avoir une grande confiance dans la miséricorde de notre Seigneur. Parce que son sang divin a une valeur infinie. De la miséricorde de Dieu, c'est douter du prix du sang divin. Le sang divin a une valeur infinie. Si j'espère mon salut, c'est pas parce que je me trouve pas mal, c'est parce que le bon Dieu est infiniment miséricordieux. Vous voyez, c'est pas en me regardant que je pense au salut, c'est en regardant notre Seigneur, parce que c'est lui qui me sauve, c'est lui mon sauveur. Alors la conséquence ensuite, à partir de ce moment-là, à partir du moment où Dieu va contracter cette alliance d'amour, eh bien, si vous lisez ensuite les textes de l'Ancien Testament, avec des commentaires, on demande aux laïcs de ne pas lire les textes sans commentaires, vous verrez que Dieu va parler justement en termes d'amour conjugal pour manifester cet amour qu'il porte à son peuple élu. Et va notamment se donner le nom de jaloux. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car Yahvé s'appelle jaloux. Il est un Dieu jaloux. Jaloux, non pas dans le sens du fils de jalousie, bien sûr, mais jaloux dans le sens où il n'accepte en son foyer aucun rival, ce qui est normal. L'amour vrai, un amour profond, est un amour qui embrasse tout le cœur humain et qui veut tout, qui exige tout. Donc un amour vrai, c'est un amour qui est sans partage. un amour profond, c'est un amour qui est total, qui veut tout. Et le bon Dieu étant notre fin dernière, c'est normal qu'il veuille tout. Donc pas de chasse gardée, pas de propriété privée, défense d'entrée. Et c'est ce qui explique aussi que chaque fois que son peuple va se tourner vers des faux dieux, eh bien, il parlera de prostitution. Donc les rites idolatriques sont comparables à la prostitution. Et malheureusement, la prostitution va se produire parce que l'homme est faible toujours. Donc Dieu, en ce moment-là, va reprocher cette union adultère de son peuple, que ce soit par la bouche du prophète Osée, que ce soit par le prophète Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Dieu va mettre au grand jour la trahison d'Israël. Et il va châtier Israël, mais toujours dans le but de l'amener dans le droit chemin. Quand le bon Dieu châtie, c'est parce qu'il aime, justement. Et qu'il est, blessé, il est d'autant plus blessé qu'il aime davantage. Plus on aime une personne, plus on est offensé de se voir trahi par l'amour de celui qu'on aime. C'est normal. Alors, il y a plusieurs passages dans la Sainte Écriture qui le rappellent. Ainsi, par exemple, Isaïe, chapitre 54, versets 4 à 8. Comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée, Yahvé te rappelle. Répudie-t-on la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais délaissée, mais ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, je t'avais caché ma face, mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi. Donc on voit cela, c'est tout à fait une image du comportement de Dieu à notre égard. Dans un débordement de fureur, je t'avais caché ma face, dans un amour éternel, j'ai pitié de toi. La colère de Dieu est toujours passagère, mais son amour est éternel. Et la colère elle-même est un effet de l'amour. Quand le bon Dieu se met en colère et nous punit, c'est pour nous ramener dans le droit chemin, parce qu'il nous aime. Et en lisant cela, il faut bien comprendre, hein, la Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc on retrouve ce que je disais, c'est un peu illusoire ou faux de vouloir opposer le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau. Bien sûr qu'il y a une dominante. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu cherchait surtout à susciter la crainte, mais l'amour est bien présent, vous le voyez bien ici. Dans le prophète Jérémie, on retrouve les mêmes paroles, les mêmes propos. On t'appelait la répudiée, mais je vais rénover ta chair, guérir tes plaies, oracle de Yahvé. La colère de Yahvé ne se détournera pas qu'il n'ait accompli et réalisé le dessein de son cœur. D'un amour éternel, je t'ai aimé, aussi t'ai-je conservé ma faveur. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Jérémie chapitre 30, verset 17. Et ce qui est vrai, vous voyez, de l'amour de Dieu pour son peuple, est vrai bien sûr de l'amour de Dieu pour son Église, encore beaucoup plus. Mais c'est vrai aussi de l'amour de Dieu pour chacune de nos âmes. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Le bon Dieu nous aime d'un amour éternel. De toute éternité, le bon Dieu pense à nous. Et s'il nous a créés, c'est dans le but justement que nous l'aimions en retour. Livre d'Ézéchiel, c'est la même chose, on retrouve les mêmes propos. Ainsi parle le Seigneur Yahvé, j'agirai avec toi comme tu as agi toi-même. Tu as méprisé le serment jusqu'à violer l'alliance, mais moi, je me souviendrai de l'alliance que j'ai contractée avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai en ta faveur une alliance éternelle. C'est moi qui rétablirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis Yahvé. Donc à force de voir le peuple qui s'écarte du droit chemin, Dieu ne trouve pas d'autre solution, entre guillemets, que de s'incarner lui-même pour venir restaurer l'alliance originelle et faire une alliance encore beaucoup plus belle. Donc Dieu ne se laisse pas vaincre par le mal, mais il triomphe du mal par le bien. C'est moi qui rétablirai mon alliance avec toi. C'est moi. Ça annonce l'incarnation du Verbe. Notre Seigneur qui vient sur la terre pour rétablir l'alliance qui a été rompue par Israël, qui était infidèle. Donc retenons en conclusion sur ces propos donc, de l'ancienne alliance, que l'amour de Dieu pour nous est un amour qui est si fort qu'il est comparable à l'amour d'un époux pour son épouse. C'est déjà de cette manière que Dieu se révèle dans l'Ancien Testament. Alors c'est vrai que lorsqu'Israël s'écarte du droit chemin, il ne reste pas impuni, mais le châtiment a toujours pour but de ramener l'épouse donc, dans le droit chemin. Alors on va voir ensuite là, l'autre volet, ce sera justement face à l'infidélité d'Israël, le mystère de l'incarnation du Verbe et de cet amour, cette nouvelle alliance qui sera contractée dans le sang de notre Seigneur. Donc nous verrons cela demain. Nous pourrons nous rendre à la chapelle.